Bonsoir à tous. Ça me fait particulièrement plaisir que vous soyez présents ce soir pour partager avec vous des éléments importants sur le règne terrestre de Christ, appelé aussi le millénium. Je ne sais pas quand est-ce que c'est que la dernière fois que vous avez entendu parler de ce thème, lors d'une réunion complète, pour ce qui me concerne, ça doit faire il y a très longtemps. Et ça fait partie de ces thèmes peut-être un petit peu compliqué, dont on n'a pas forcément toujours l'habitude de parler, et pourtant tellement important, et puis qui m'ont en tout cas personnellement, lors de la préparation, fait beaucoup de bien de voir à quel point Dieu, dans un certain nombre de détails, nous donne des prophéties pour l'avenir. Et c'est très encourageant de pouvoir se reposer sur ce Dieu-là. Alors, ce soir, je vous propose un plan pour cette présentation. On va d'abord s'arrêter, parce que je pense que c'est important, sur ce point, comment interpréter la prophétie. De mon point de vue, c'est à partir de cette question d'interprétation et de manière dont on va chercher à interpréter la Bible que partent après différents types de systèmes qui sont retenus dans la chrétienté. Et je vais expliquer ce que je crois être l'interprétation la meilleure, et partant de là, le système qui me paraît être le meilleur quant à la fin des temps. On parlera aussi du millénium dans l'histoire. C'est intéressant de voir ce que d'autres ont pensé il y a bien des années, notamment les pères de l'Église dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, lors du temps du réveil. On va un petit peu balayer très rapidement ces différentes périodes de l'Église et voir ce que croyaient les différents prédicateurs de ces temps-là sur le millénium. On va aussi s'arrêter pour bien replacer de quoi on parle. On va s'arrêter aussi quelques instants pour parler de ce qui vient avant le millénium. Ensuite, on va parler du millénium proprement dit, en retirant quelques caractéristiques, en parlant aussi de l'organisation du gouvernement messianique. Je vous proposerai ensuite, pour terminer, un petit épilogue et une conclusion. Millénium. Ça vient de deux mots latins, millenius, mille années, et puis, en fait, c'est un terme qui ne se trouve en tant que tel pas dans la Bible. Et le point important que nous allons maintenant voir, c'est comment est-ce que nous allons interpréter la prophétie? Comment interpréter la prophétie d'une manière générale? Nous croyons, je crois, et je crois que la plupart des croyants aussi de l'Assemblée chrétienne ici à Balègue, et beaucoup d'entre vous aussi, à l'inhérence de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous croyons que la parole de Dieu est inspiré et que chaque mot dans l'original grec, hébreu ou araméen, les trois langues dans lesquelles la Bible a été écrite, a été choisi précisément par Dieu et donné à ceux qui ont écrit ensuite sa parole. Et nous croyons qu'il s'agit de comprendre donc le sens de ces différents mots pour bien comprendre ce que la parole de Dieu veut nous dire. Un point important à partir de là, c'est le choix de la méthode d'interprétation. Celui-ci détermine toute notre eschatologie. L'eschatologie, c'est le terme technique qu'on utilise pour parler du discours sur la fin des temps. Eschatos, dernier, logos, parole. Et puis, je vous cite ici un amillénariste, c'est-à-dire quelqu'un qui ne retient pas forcément le système que nous retenons, et qui dit, c'est un dénommé Hamilton, admettons-le franchement, si on interprète les prophéties de l'Ancien Testament d'une manière littérale, il s'en dégage une image du règne terrestre du Messie qui correspond exactement aux représentations prémillénaristes. Je trouve assez intéressant de la part d'un amillénariste de dire que l'interprétation littérale des prophéties de l'Ancien Testament conduit au système que nous retenons. Quelques principes généraux d'interprétation de la Bible. Premier point qui me semble important, c'est interpréter en accord avec la syntaxe et les termes utilisés. Deuxième point, interpréter d'après le contexte. Alors on regarde le voisinage immédiat du verset, mais aussi le livre, l'ensemble du chapitre, l'ensemble du livre écrit. Et puis enfin, on compare les textes bibliques entre eux Et on évalue chaque passage à la lumière de l'ensemble de la vérité révélée de Dieu. J'aimerais citer une citation de John MacArthur qui dit « Si le sens littéral d'un passage est rejeté, qui doit déterminer quel sens non littéral ou spirituel lui donner, étant donné que les règles normales d'interprétation ne s'appliquent pas ?» Ça veut dire que si on ne peut pas interpréter un passage de manière littérale, qui c'est qui va décider que tel chapitre dans la Genèse, on l'interprète de manière littérale et puis tel autre pas ? On va se placer au-dessus de la parole de Dieu d'une certaine mesure. Et c'est pour ça que nous retenons l'idée que chaque passage doit être appliqué littéralement. Comme les prophéties au sujet de la première venue de Christ se sont accomplies toutes littéralement, nous croyons que celles qui concernent la seconde venue de Christ et son règne millénaire, elles s'accompliront aussi littéralement. Prenons quelques exemples. La naissance virginale, elle a été prédite dans Ésaïe 7, verset 14, et puis Matthieu 1, verset 18 à 25, nous le confirme. La naissance du Messie à Bethléem, précisément, prédite en Michée 5, 1. Réalisation Matthieu 2, 5, 6. Je ne vais pas chaque fois vous donner les références, mais si vous les souhaitez, je vous les donnerai volontiers à l'issue de la réunion. L'entrée à Jérusalem sur un ânon, quelque chose d'extrêmement précis, le jour de la fête des rameaux. L'entrée à Jérusalem sur un ânon, Zacharie 9, verset 9. Le partage des vêtements de Jésus lors de sa passion, Psaume 22, verset 19. Sa mort, sa résurrection, son ascension. Frères et sœurs, on peut prendre l'Ancien Testament, on peut prendre combien de prophéties qui ont été dites, données sur Jésus-Christ, sur sa première venue, et nous constatons dans le Nouveau Testament qu'elles se sont littéralement toutes produites. 330 prophéties concernant le Messie ont été accomplies à la lettre lors de la première venue de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, je vous invite à lire le livre de Roger Libby, « Prophéties messianiques et leur accomplissement par la venue de Jésus ». 330 prophéties sur Jésus-Christ écrites dans l'Ancien Testament et qui ont été réalisées totalement dans le Nouveau Testament. Nous trouvons évidemment leur réalisation dans les évangiles. Et puis alors, pour ce qui concerne la fin des temps, pour ce qui concerne la seconde venue de Jésus, le règne millénaire, et puis surtout avant, les signes avant-coureurs. 175 prophéties concernant les temps de la fin ont déjà été accomplies. Pour ceux qui ne sont pas convaincus par ce chiffre, vivons-nous vraiment au temps de la fin? Édition Appel de minuit, Roger Liebi. Là aussi, 175 prophéties concernant les temps de la fin ont déjà été accomplies. Frères et sœurs, les prophéties de l'Ancien Testament, je le crois, s'accomplissent littéralement. On le voit pour Jésus-Christ, pour sa première venue, et on le voit aussi déjà par rapport à ce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous disent des temps de la fin. Nous arrivons à cette fameuse question qui hante pas mal de chrétiens, en tout cas tous ceux qui se plongent sur l'eschatologie. Est-ce que le millénium, les 1000 ans dont il est question dans Apocalypse 20, s'agit-il d'une période de temps exacte ou bien s'agit-il d'un chiffre symbolique? C'est un point important. Alors, j'aimerais d'abord répéter que dans Apocalypse 20, cette expression est répétée 6 fois, comme pour insister sur cette durée. J'aimerais aussi dire que dans le livre de l'Apocalypse, les durées ne sont jamais employées à titre symbolique. Elles doivent toutes être interprétées littéralement. 1260 jours, 42 mois. Et puis, si on prend aussi les autres chiffres, on peut parler des 12 tribus, des 7 églises, des 7 sceaux, des 7 trompettes. Il me semble que tous ces chiffres s'interprètent littéralement. D'autre part, et c'est mon dernier argument, le contexte ne nous donne aucune raison pour ne pas appliquer littéralement ce chiffre annoncé dans Apocalypse 20. On poursuit ces réflexions sur comment interpréter la prophétie en venant maintenant sur la nécessité de bien distinguer Israël et l'Église. Et ça, moi qui vais de temps en temps sur Internet regarder un petit peu ce qui se trouve sur tel et tel site, sur tel et tel blog, ou bien écouter une fois ou l'autre ici des publications et des prédications, eh bien, on peut vraiment constater que aujourd'hui, on a accès à tellement d'avis différents. Et beaucoup de chrétiens ne retiennent pas forcément cette distinction. Pour bien comprendre la prophétie, le croyant doit donc faire la différence entre Israël, qui est le peuple terrestre de Dieu, et l'Église, qui est son peuple céleste. Et un point extrêmement important, l'Église n'a pas remplacé un Israël désobéissant. Paul le précise bien, il dit en Romains 11, verset 2, en parlant précisément des Juifs et du peuple d'Israël, « Dieu n'a pas rejeté son peuple ». Les alliances conclues avec Israël ne sont pas caduques, et Dieu accomplira les promesses particulières faites à Israël dans l'Ancien Testament. Et c'est de nouveau dans Romains 11, au verset 30 et 31, que nous trouvons la réponse. « Car comme vous aussi, les Romains, vous avez été autrefois désobéissants à Dieu, et que maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde. Par la désobéissance de ceux-ci, de même ceux-ci, c'est-à-dire les Juifs, aussi ont été maintenant désobéissants à votre miséricorde, afin qu'eux aussi, c'est-à-dire les Juifs, deviennent des objets de miséricorde. » Donc cette distinction, tout au long de la Bible et de la révélation de Dieu, est extrêmement importante. Ne pas confondre l'Église et Israël et ne pas penser que l'Église a remplacé Israël. Les deux ont une destinée propre, une destinée différente, particulière, et cette pensée suit toute la révélation de Dieu. Un autre point aussi qu'il faut toucher en parlant du règne terrestre de Christ, c'est la question des alliances. En particulier, certaines alliances que Dieu a données dans l'Ancien Testament ne sont pas encore accomplies pleinement. Et en les lisant, nous comprenons qu'elles auront leur plein accomplissement lors du règne terrestre de Christ. Il y a notamment trois alliances qui sont inconditionnelles et qui contiennent des éléments qui n'ont pas encore été réalisés. Il y a d'abord l'alliance abrahamique, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Il l'a faite trois fois, elle s'est même élargie, et puis elle a été renouvelée à Isaac et à Jacob. Et je vous mentionne trois éléments. Vous pouvez retrouver les différents textes. Je vous mentionne trois éléments de ces alliances données à Abraham, de cette alliance donnée à Abraham et qui a été augmentée avec le temps, qui n'ont pas encore été accomplies. Premier point, il est dit dans cette alliance que les descendants d'Abraham recevront le pays de Canaan en possession pleine, entière et perpétuelle. Et si vous prenez la description que Dieu donne du pays qui sera à Abraham pour sa possession, pour sa famille, pour son peuple, de manière pleine, entière et perpétuelle, vous constatez que les frontières d'Israël dans l'histoire ne correspondent pas aux frontières qui sont données dans l'Ancien Testament. C'est à venir, une promesse à venir. Et nous savons très bien que Canaan n'a pas été en possession perpétuelle au peuple d'Israël, puisque c'est seulement en 1948 qu'il est retourné dans ce pays, et qu'encore aujourd'hui, une partie du pays ne lui appartient pas. Dieu traitera les hommes selon leur attitude envers Abraham. C'est un point que je reprendrai plus tard. Et puis, Abraham sera une source de bénédiction universelle, et on verra comment là aussi. Des promesses de l'alliance, des parts de l'alliance qui n'ont pas encore été réalisées. Nous arrivons sur une alliance supplémentaire, celle avec David, en 2 Samuel 7, versets 12 à 16. Une partie de ces promesses, là aussi, n'est pas encore réalisée, elle le sera lors du règne millénaire. La postérité de David et sa dynastie seront ainsi établies pour toujours. Son trône sera éternel et son royaume se maintiendra à jamais. La nouvelle alliance également, dont nous avons l'habitude de parler en tant que chrétiens, la nouvelle alliance, elle est d'abord donnée aux Juifs. Elle est donnée en Jérémie 31, versets 31 à 34, mais on la voit aussi et on peut comparer avec Ésaïe 59, 20, 21, 61, 8, 9, Jérémie 32, 37, Ézéchiel 16, 34, Ézéchiel 37. Elle est souvent d'une manière plus ou moins différente répétée. Et cette alliance est conclue, cette nouvelle alliance est conclue avec le peuple juif. Avec les 12 tribus, elle s'adresse donc au peuple juif. Et qu'est-ce qu'elle leur promet ? Elle promet aux juifs un cœur nouveau, une véritable régénération. Très peu de juifs aujourd'hui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Il existe une part des juifs qu'on appelle juifs messianiques, qui a reconnu Jésus-Christ comme le Messie, mais ils sont très peu nombreux. Elle promet pour les juifs le pardon des péchés, et le Saint-Esprit se saisira de son peuple et exercera un ministère d'enseignement au milieu de lui, au milieu du peuple juif, pas encore réalisé également. J'aimerais juste mentionner que dans le Nouveau Testament, cette nouvelle alliance est réitérée à de nombreuses reprises. On le sait, notamment dans le cadre de la scène, on en parle parfois. Et puis elle n'est pas seulement alors réservée aux Juifs, elle est étendue et établie, nous dit Matthieu 26, 28, pour beaucoup. C'est-à-dire qu'elle a été premièrement donnée aux Juifs, mais que nous aussi, nous sommes les participants à cette alliance, notamment pour 4 bénédictions qui ont été promises à Israël et qui sont également données à l'Église, qui est celle de la régénération, du pardon des péchés, de l'acceptation par Dieu et de l'enseignement du Saint-Esprit. L'accomplissement littéral et complet du royaume de Dieu annoncé par Jésus. Le millénium, le règne millénaire de Christ, permettra d'accomplir de manière littérale et complète ce royaume de Dieu sur la terre, annoncé par Jésus. Le royaume de Dieu sera donc pleinement établi lors du règne millénaire. Il faut dire ici que les Juifs ont rejeté le royaume. Hérode souhaitait faire périr l'enfant Jésus. Jean-Baptiste, le précurseur annonçant la repentance, a été rejeté. Jésus a prononcé un jugement solennel contre toutes les villes qui ont refusé son message, Matthieu 11, 21. Et les chefs juifs ont conclu que Jésus accomplissait ses œuvres non par la puissance divine, mais par la puissance satanique. Matthieu 9, verset 34. Il y a un moment donné où les chefs juifs, et en Matthieu 12, 27 à 37, conclut que si Jésus accomplit ses miracles, eh bien, c'est non par la puissance de Dieu, mais par la puissance de Satan. Et ça, ça marque une rupture dans l'évangile selon Matthieu, où après Jésus vient et prononce ses différentes paraboles sur le royaume de Dieu. Enfin, les Juifs rejettent définitivement Jésus-Christ lorsqu'ils le crucifient sur une croix et qu'ils font placer au sommet de cette croix Jésus, roi des Juifs. Israël a donc rejeté le royaume de Dieu. Toutefois, ce royaume existe aujourd'hui sous une forme mystérieuse. Matthieu 13, verset 11, on va juste lire ce verset, ça me paraît important. Ça me paraît important et j'insiste un petit peu, je fais une parenthèse peut-être un peu plus longue que je le devrais sur cette question du royaume de Dieu, parce qu'on entend très souvent dans la chrétienté des expressions du style « Ah ben il faut établir le royaume de Dieu sur la terre ». Alors je pense que c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu que d'avoir des propos, de tels propos, parce que celui-ci s'établira, mais lors du règne millénaire, et pas aujourd'hui. Verset 10, et les disciples s'approchant donc de Matthieu 13, lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole ? Voyez, après avoir entendu les chefs juifs dire que il accomplissait tous ses miracles par la puissance du diable, Eh bien, il pose cette question les disciples. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Et lui, répondant, leur dit, c'est parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, c'est-à-dire aux chefs juifs, il n'est pas donné. Le royaume de Dieu existe donc depuis sous une forme mystérieuse. Les sept paraboles du royaume de ce chapitre de Matthieu 13 montrent que le royaume existait déjà. Et puis ce qui est intéressant, lorsque vous lisez ces paraboles, vous constatez que la période temporelle couverte dans ces paroles est indiquée par des expressions comme la fin du monde, la consommation du siècle. Il y a même une des paraboles en Matthieu, au verset 49 et 50 de Matthieu 13, où il est dit « Les anges sépareront les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise de feu. » Donc, si on comprend bien le royaume de Dieu, on comprend qu'il a commencé lorsque Jésus était sur la terre et a donné tous ses enseignements, Jean-Baptiste l'a annoncé, et puis il se terminera et il se clôturera lors de la fin du monde, lors de la consommation du siècle et lorsque les anges sépareront les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise de feu. C'est cette période-là qui est couverte par le royaume de Dieu. Aujourd'hui, l'Église n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est encore un mystère et il sera pleinement révélé alors que Christ commencera son règne terrestre. Alors, j'arrive au terme de ce premier grand thème sur comment interpréter la prophétie. De cette approche littérale dont on vient de discuter, découle ce que nous retenons dans les assemblées de frères depuis de nombreuses années, une position qu'on appelle pré-tribulationniste, pré-millénariste. Et je vous rappelle, concernant les autres positions, je vous renvoie à la réunion que Cyril a donnée il y a un mois, où il a brossé le portrait de ce qu'était l'amillénarisme et le post-millénarisme, ou alors aussi à la réunion qu'on avait eue il y a 2 ans avec Timothy Eijermans sur les prophéties sur les temps de la fin, où lui aussi a touché ces différents systèmes. Je ne veux pas m'attarder plus longtemps là-dessus ce soir, le temps manquant. Nous arrivons sur le deuxième chapitre de cette présentation, le millénium dans l'histoire. Point important. On entend dire par les détracteurs de la position que nous retenons que le prémillénarisme est une invention de Darby ou de Scofield. Puis ça suffit à discréditer parce qu'on sait que malheureusement, peut-être parfois Darby a été un peu sectaire, surtout sur la fin de sa vie. Et puis alors du coup, on balance ce système d'interprétation. Alors, je crois que c'est important de voir ce qui était cru au sujet du millénium au niveau quant à l'histoire, dans toute l'histoire de l'Église. Et on va commencer l'histoire de l'Église juste après l'ascension de Jésus-Christ. Et on va lire ensemble Acte 1, verset 6. Et on va voir ce que les apôtres, ils avaient très bien compris puisqu'ils avaient été pris à part par Jésus, qui leur avait donné ces paraboles du royaume, ils avaient très bien compris quand est-ce que ce règne millénaire aurait lieu. Acte 1, verset 6. Juste avant son ascension. J'ai mis après, mais c'est avant. Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume pour Israël ?» Donc c'était très clair que pour eux, le royaume n'avait pas encore été établi. Juste avant que Jésus monte au ciel, il pose cette question, « Est-ce en ce temps si que tu rétablis le royaume pour Israël ?» Mais la réponse, c'est non. Les apôtres croyaient en un royaume terrestre. Dans l'Antiquité, alors là, j'ai pris quelques citations qu'on va lire ensemble, elles sont projetées, qui me paraissent intéressantes. Philippe Schaff, c'est un spécialiste de l'histoire de l'Église qui a écrit un livre en anglais qui fait référence, History of the Christian Church, et il écrit « L'observateur de l'époque d'avant le concile de Nicée, qui a eu lieu en 325, est surtout frappé par l'importance du chiliasme ou millénarisme, c'est-à-dire la foi en un règne visible du Christ glorieux sur la terre. Pendant 1000 ans, avec les saints ressuscités avant la résurrection générale et le jugement. En fait, ce n'était pas une conviction incarnée dans un credo ou une forme de piété, mais un courant d'opinion très répandu parmi l'élite des théologiens. » Chiliasme est une expression qui veut dire exactement la même chose que millénarisme, c'est-à-dire 1000. Justin Martyr, en 100 après Jésus-Christ, dans son dialogue avec Tryphon, « Il y aura une résurrection des morts et une période de 1000 ans où Jérusalem sera édifiée, décorée et agrandie conformément aux prophéties d'Ézéchiel et d'Ésaïe et d'autres. » Tertullien, dans Contre Martion, « Nous confessons qu'un royaume nous est promis sur la terre avant que nous allions au ciel. » Et sur un autre plan d'existence, puisque cela se passera après la résurrection, pendant 1000 ans, dans la cité de Jérusalem édifiée par Dieu. Vous avez déjà compris beaucoup de choses. Ça m'impressionne. Népos, 230 après Jésus-Christ, évêque égyptien, dans discussion avec les allégoristes, il y aura un règne terrestre de Christ. Lactance, en 240 après Jésus-Christ, un érudit latin dans l'institution divine, à la même époque, le prince des démons, l'inventeur de tous les maux, sera lié avec des chaînes et emprisonné pendant les 1000 ans du règne céleste, où la justice régnera sur la terre de manière qu'il ne puisse faire aucun mal au peuple de Dieu. Voilà ce qu'on croyait sur le millénium dans l'Antiquité, des pensées qui me paraissent totalement justes et conformes à l'enseignement de la parole de Dieu. En fait, ça n'est qu'à partir de saint Augustin, 354 à 430 après Jésus-Christ, que la pensée amillénariste a commencé à se dessiner. Au Moyen Âge, le prémillénarisme est petit à petit repoussé par la hiérarchie de l'Église romaine. Seuls des petits groupes minoritaires, dont les Vaudois du Piémont, retiennent encore cette interprétation de la prophétie. Évidemment, pourquoi ? Parce que l'Église romaine était extrêmement puissante et elle se faisait passer pour le royaume de Dieu et l'exécuteur des jugements divins. Après le Moyen Âge, nous arrivons à la Réforme, 1500 à 1650 après Jésus-Christ. Wycliffe, Calvin, Luther, Zwingli croyaient que l'Église était le royaume de Dieu sur la terre. L'eschatologie ne constituait pas leur préoccupation majeure. Ils avaient tellement d'autres chats à fouetter, j'imagine, notamment en termes doctrinal pour la réforme. Et c'est en Angleterre, avec William Tyndale, Nicolas Ridley et Hugh Latimer, que le retour au prémillénarisme a été initié. À noter qu'une bonne partie des Huguenots, du mouvement anabaptiste, des frères de Bohême, des frères moraves, et croyaient eux aussi au retour de Christ avant le millénium. En fait, le protestantisme ne s'est jamais complètement remis de l'eschatologie développée par l'Église catholique au Moyen Âge. Et puis on arrive à la période du réveil, au XIXe siècle, qui conduit à un grand retour du prémillénarisme. Peters arrive à une liste de 470 pasteurs et écrivains en Europe de sa génération, il écrit ça en 1884, qui retiennent cette interprétation littérale de l'écriture. C'est Bengel, en 1740, qui publie un commentaire sur l'Apocalypse et qui donne un essor au prémillénarisme important, puisqu'il a été suivi immédiatement après par John Wesley, John Nelson Darby et enfin Scofield. J'ouvre maintenant une parenthèse. Que disent finalement les autres positions par rapport au millénium? Je vais être très bref. Ceux que ça intéresse, il existe des ouvrages là-dessus, et l'objectif n'était pas forcément de passer beaucoup de temps à présenter des systèmes auxquels on ne croit pas forcément. Et c'est intéressant de les connaître, c'est intéressant de s'informer, et il y a énormément de livres qui existent sur le sujet. J'aimerais juste résumer de manière concise ce qu'ils croient. Le post-millénarisme. Ils pensent que le millénium précédera le retour de Jésus-Christ. Un des grands défenseurs du post-millénarisme, Loren Boettner, y dit « Le mal sous toutes ses formes sera finalement réduit à des proportions négligeables. Les principes chrétiens deviendront la règle plutôt que l'exception, de sorte que le Christ reviendra dans un monde vraiment christianisé. Proclamer l'évangile à l'univers, conduire pendant le temps de la grâce un maximum d'hommes de toutes les nations à la conversion sont les ordres formels du Christ. » Donc, the meaning of the millennium. Concernant l'amillénarisme, définition donnée par Ellis, qui est lui-même un amillénariste, doctrine selon laquelle la seule venue visible du Christ sur cette terre à laquelle l'Église doit s'attendre se fera en vue du jugement, elle sera suivie de l'état final. Alors l'amillénarisme s'est développé à partir de l'Église catholique, selon laquelle, je vous l'ai dit, l'Église est le royaume de Dieu sur la terre. Par conséquent, l'Église règne ou devrait régner dès maintenant. Le millénium est donc une réalité spirituelle et les 1000 ans, pour eux, doivent être pris symboliquement. J'arrive maintenant aux événements qui vont se passer avant le millénium. Un petit schéma vaut mieux que 1000 mots. Donc on voit, si on prend le schéma dans l'ordre temporel, qu'il y a d'abord le temps de l'Église, c'est le temps que nous vivons actuellement, et puis à un moment donné, il y aura l'enlèvement de l'Église. Le retour de Jésus-Christ pour ravir son Église des 7 ans de tribulation qui suivront. Et à l'issue de ces 7 ans, Jésus-Christ reviendra sur la terre, établir son royaume, il posera les pieds sur le mont des Oliviers et il viendra établir son royaume terrestre durant 1000 ans. Et puis là, vous avez un schéma extrêmement rapide de tout ce qui se passera pendant les 7 ans de tribulation sur la terre. On peut juste mentionner que ces 7 ans de tribulation sur la terre se termineront par le grand rassemblement de toutes les armées qui combattront contre Israël à Armageddon. Cette grande plaine aujourd'hui où se situe une base militaire la plus importante de l'armée israélienne. Et puis, ce rassemblement-là, dans cette région-là, aura lieu la bataille finale avant laquelle Christ reviendra. Il y aura ensuite les noces de l'agneau. Et la bête et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu. On va voir tout ça. Parce qu'il y a un certain nombre de conditions à la mise en place du règne. Mais avant de toucher ces conditions à la mise en place du règne, j'aimerais lire avec vous Apocalypse au chapitre 20. Donc nous lisons dans Apocalypse au chapitre 20 et au verset 1er. Et je vis un ange descendant du ciel ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans ses mains. Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme et l'enferma. et il mit un sceau sur lui afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Et du feu descendit du ciel de la part de Dieu, et les dévora. Et le diable, qui les avait égarés, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et je vis un gros trône blanc, et celui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel, et il ne fut pas trouvé de lieu pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône, et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie. Et les morts furent jetés, d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et le Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Alors, quelles sont les conditions à la mise en place du règne? La première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait le tribunal de Christ, c'est-à-dire que les croyants soient jugés, afin que les récompenses puissent être données, et respectivement leur position dans le royaume. 2 Corinthiens 5, verset 10. Il faut aussi que tous les croyants soient ressuscités. C'est ce qu'on a lu au verset 6 de ce chapitre 20 d'Apocalypse. Et puis, pour que le règne millénaire puisse avoir lieu, eh bien, Satan doit être lié et empêché de séduire les nations. On l'a vu au verset 1 et 3 du passage qu'on vient de lire. Enfin, Israël est rassemblé dans son territoire, et ça, on trouve dans Ézéchiel 37, 21 et Amos 9, verset 15. Nous arrivons maintenant aux caractéristiques du millénium. Qu'est-ce que ça sera? Avant d'entrer dans ces caractéristiques, j'aimerais vous dire qu'on va aller chercher des éléments qui se situent dans l'Ancien Testament et qui se situent dans le Nouveau Testament. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les textes les plus nombreux décrivant le millénium ou le règne messianique ne se situent pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, qui en pose le fondement. Le Nouveau Testament et Apocalypse 20 en particulier apportent quelques éléments supplémentaires, comme la durée de ce règne, et puis quelques précisions quant à la fin de ce règne. À noter que dans le Nouveau Testament, je vous ai dit, il n'est jamais parlé de millénium. Par contre, Jésus, en Matthieu 19, verset 28, appelle ce temps-là le renouvellement. Pierre, lui, dans Actes 3, au verset 20 et 21, parle de temps de rafraîchissement ou de temps de rétablissement de toutes choses. Et Paul, enfin, dans Éphésiens 1, verset 11, parle du plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. La première caractéristique du millénium, c'est la justice. Aujourd'hui, vous le constatez avec moi, sur la terre règne l'injustice. Des personnes sont condamnées alors qu'elles n'étaient pas coupables. Des coupables ne sont pas condamnés parce que peut-être leur fortune était suffisamment grande pour corrompre le juge. Parfois même dans l'Église, l'injustice peut aussi parfois régner. Et qu'est-il dit de ce temps que nous vivrons de 1000 ans ? Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à perpétuité. C'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. Psaume 45, versets 6 et 7. Voici un roi régnera en justice et des princes domineront avec droiture. Ésaïe 32, verset 1. Futur. Et je te donnerai pour gouvernant la paix et pour magistrat la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de dévastation et de ruine dans tes confins. Et ton peuple, eux tous, seront justes. Ésaïe 60, versets 17, 18 et 21. Frères et sœurs, ce que la morale a été incapable de produire, ce que les hommes ont cherché à bâtir à travers, par exemple, le communisme, sera enfin réalisé par Christ, le seul juste, la justice sur la terre. La paix. Ce que les multiples conférences sur la paix, les traités de désarmement, la Société des Nations, puis l'ONU, n'ont jamais réussi à produire de manière durable, une fois l'injustice réprimée, la paix sera produite par le prince de paix. C'est lui qui ramènera la paix. En ces jours, le juste fleurira, il y aura abondance de paix, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. Ils habiteront chacun sous son figuier, sa vigne et son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Frères et sœurs, cette paix aujourd'hui existe déjà entre le Seigneur, entre Jésus-Christ et vous, son enfant. Elle sera un jour glorieusement manifestée ici-bas. La paix universelle touchera également le royaume animal. Et le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera avec le chevreau, et le veau et le jeune lion et la bête grasse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache paîtra avec l'ours, leurs petits coucheront l'un près de l'autre, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nourrisson s'ébattra sur le trou de l'aspic, et l'enfant sevré éteindra sa main sur l'antre de la vipère. Voilà la paix que nous promet le règne terrestre de Christ. Le bonheur, le deuil, les situations de famille difficiles, les échecs professionnels, les déceptions, qui n'a pas connu ça? Même pour les croyants, c'est parfois des circonstances qui nous touchent et qui sont des voleurs de joie. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Tu as multiplié la nation, tu lui as accru la joie. Ils se réjouissent devant toi comme la joie à la moisson, comme on est transporté de joie quand on partage le butin. Il engloutira la mort en victoire et le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de dessus tout visage et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre. Voilà un bonheur parfait. Celui qui nous attend durant le millénium. Quant à la longévité et la santé, j'aimerais rappeler ici que la mort est entrée dans le monde suite à la chute. C'est une conséquence du péché, nous dit Romains 5, 12. Elle n'est pas l'ultime désir de Dieu pour l'homme. Et puis même après la chute, les hommes ont vécu longtemps, 969 ans pour Méthusalem, et c'est en voyant la corruption des hommes que Dieu a pris la décision du déluge et de limiter la durée de la vie de l'homme à 120 ans. Genèse 6, verset 3. Eh bien, qu'en sera-t-il lors du millénium? Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Comme au temps de Jésus, où les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, Satan étant lié, Christ aussi permettra que la vie sera allongée et la santé sera meilleure. Ce sera probablement une part du rétablissement de toutes choses dont parle Pierre en Actes 3, 21. La terre produira un fruit abondant. Dieu poursuivra le rétablissement de ce qui a été ruiné par la chute. Les blés abonderont dans le pays et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence ou le moût, ruissellera des montagnes, coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. La terre, frères et sœurs, redeviendra un paradis, non par l'action de l'homme et une agriculture archimécanisée ou super bio, mais par la présence de Christ. Ainsi, les malédictions prononcées contre la terre seront atténuées. La terre sera affranchie de la malédiction. Rappelez-vous, lors de la chute, le sol a été maudit. Aujourd'hui, les hommes surexploitent la terre et la mer. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été assujettie à la vanité, dans l'espérance que la création elle-même sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, et ce pour l'Éternel, et ce sera, ou il manque quelque chose, pour l'Éternel un nom, un signe à toujours qui ne sera pas retranché. Élément aussi intéressant, la terre connaîtra des changements topographiques. Et oui, le mont des Oliviers sera fendu en deux. De l'eau coulera en abondance depuis Jérusalem. Jérusalem sera élevée. Des hautes montagnes apparaîtront au centre d'Israël. La terre sera remplie de la connaissance de Dieu. On ne fera pas de tort et on ne détruira pas dans ma sainte montagne, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ils n'enseigneront point chacun son concitoyen et chacun son frère, disant « Connais le Seigneur, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Ainsi dit l'Éternel des armées, « En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront, oui, saisiront le pan de la robe d'un homme juif, disant « Nous irons avec vous, car nous avons ouï dire que Dieu est avec vous. » Magnifique cette image pour ce peuple qui est rejeté aujourd'hui. J'en arrive à l'organisation du gouvernement messianique. Le roi, évidemment, il y a un roi, puisqu'il y a un royaume. Ce roi, c'est Jésus-Christ, le Messie Jésus, le roi des rois. Son trône et son territoire, son trône sera à Jérusalem, capitale du monde, et son territoire sera la terre entière. Zacharie 14, verset 19. Point intéressant, puisque le péché ne sera pas, Satan sera lié, mais le péché ne sera pas aboli, eh bien, il aura un bâton de fer ou une verge de fer à cause de la diversité des nations et la nature pécheresse des personnes qui peuplent le royaume. Venons dans quelques détails sur la branche des gentils du gouvernement, c'est-à-dire les gens des nations. Eh bien, les croyants feront partie de ce gouvernement, eux qui ont été jugés et enlevés avant la grande tribulation. Les croyants qui ont été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu pendant la première moitié de la grande tribulation également. Et puis enfin, les croyants qui n'ont pas rendu culte à l'Antichrist et n'auront pas accepté la marque 666 sur leur front ou leur bras droit. Je sais que ça peut paraître toujours étonnant qu'il y ait encore des croyants dans ces périodes-là, mais frères et sœurs, pensez simplement à la question des naissances. Il y a des personnes qui se convertiront encore pendant ces périodes difficiles. Jérusalem sera la capitale du monde pendant le millénium. les saints co-régneront et appliqueront les décrets de Jésus aux nations. Quant à la branche juive du gouvernement, Israël sera placé à la tête des nations. Il redeviendra le premier peuple de la terre. Élément intéressant, ça ne m'avait jamais frappé jusque-là, David, le roi David, sera prince sur Israël. Les 12 apôtres régneront sur les 12 tribus. Il y aura d'autres princes, certains imaginent éventuellement Zorobabel, qui feront partie de ce gouvernement. Il y aura également des juges et des conseillers qui seront responsables de la justice. Et le peuple d'Israël deviendra le missionnaire, ou les juifs deviendront les missionnaires du monde auxquels ils apporteront la bénédiction de Dieu. Il faut que Abraham soit une source de bénédiction pour toutes les nations. Rappelez-vous de cette alliance abrahamique. De cette manière-là, Abraham sera véritablement cette source de bénédiction pour toutes les nations. Qui participera au millénium ? Les juifs convertis ? Les saints de toutes les époques ? Ceux qui sont morts croyant dans la première tribulation et ceux de la deuxième tribulation qui n'ont pas ployé le genou devant l'Antichrist ? Donc au début du millénium, il n'y aura que des croyants. Les naissances se produisant, les hommes ayant toujours leur libre arbitre, certains ne seront pas croyants, ce qui explique notamment la rébellion finale. Le culte, c'est pas que ces éléments-là, mais je cite quelques éléments du culte intéressants qui peuvent nous frapper durant le millénium. Le Messie sera à la fois le dirigeant politique et spirituel. L'obligation d'observer la fête des tabernacles, un point intéressant, vous pouvez lire en Zacharie 14, versets 16 à 19, cette fête des tabernacles, il y aura une fois par année, et puis l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi. Et point très intéressant, le temple, oui, le temple sera à nouveau en fonction et des sacrifices seront offerts. Mais il y aura dans le royaume messianique, deux endroits de désolation particuliers, Babylone. Ce sera un lieu brûlant continuellement et fumant durant toute la période du royaume. Le lieu même, nous dit la parole, de l'habitation des démons, parce que c'est là que régnait, depuis là que régnait l'Antichrist, et c'est cette ville qui s'est particulièrement rebellée contre Dieu. Et puis aussi un autre lieu, Édom, au sud de la Jordanie, ce sera aussi un lieu de consommation qui empêchera tout homme d'y vivre ou de traverser le pays à cause de sa haine perpétuelle envers le peuple juif au cours de l'histoire. Rappelez-vous, tout avait commencé quand le peuple d'Israël se rendait en Canaan depuis l'Égypte et où les Édomites avaient refusé le passage et étaient montés contre eux pour les combattre. Nous arrivons à l'épilogue. Voilà encore un schéma sur cette fin des temps et sur cette période du millénium qu'on vient, on voit l'espèce d'échelle qui montre vers le ciel, ce règne terrestre de Christ. Et la fin du millénium, on l'a lu en Apocalypse 20, le diable sera délié pour un petit peu de temps. Il y aura une foule nombreuse qui va succomber à la tentation du diable, qui aura été déliée. Et Gog et Magog, qui représente le grand ennemi du Nord, partira au combat contre Israël, contre Jérusalem en particulier, contre les saints. Et puis, au verset 9 et 10, on a vu qu'un jugement foudroyant assure le triomphe du Seigneur. Le fait que le diable puisse encore agir à la fin du millénium démontre que le règne terrestre de Christ n'est pas la solution finale, parce que les hommes qui font partie du royaume ont encore la nature pécheresse en eux. Il faut donc que nous ayons tous des corps complètement glorifiés où le péché n'aura plus de prise, et il faut que Satan soit définitivement jeté dans l'étang de feu et de soufre pour que puissent s'établir les nouveaux cieux et la nouvelle terre où nous pourrons habiter dans un monde non pas seulement renouveler ce que sera la terre lors du millénium, mais un monde nouveau, totalement nouveau, où Christ règnera. Les derniers événements après le millénium, la résurrection des morts incroyants pour le jugement, tous les incroyants sont restés dans le séjour des morts, et puis à ce moment-là, ils seront ressuscités pour passer devant ce grand trône blanc dont nous avons lu quelque chose, et être jugés, et puis jetés dans l'étang de feu. Et enfin, l'état final dont nous parlera Kimo la prochaine fois, et je ne vais pas évoquer son sujet pour lui laisser toute la primeur, les nouveaux cieux et la nouvelle terre dont nous parle Apocalypse 21. Nous arrivons à la conclusion. Imaginez un monde dominé par la justice et la bonté. Un monde où il n'y aurait aucune injustice, où aucun tribunal ne rendrait de verdict injuste, et où tout le monde serait traité avec équité. Imaginez un monde où ce qui est vrai, juste, noble, marquerait toutes les dimensions de la vie, y compris les relations interpersonnelles, le commerce, l'éducation et le gouvernement. Imaginez un monde où régnerait une paix totale, obligatoire et permanente, où la joie abonderait et où la bonne santé prévaudrait à tel point que les gens vivraient pendant des centaines d'années. Imaginez un monde duquel la malédiction serait levée, où l'environnement retrouverait la pureté originelle du jardin d'Éden, où la paix régnerait même dans le règne animal. Imaginez un monde sur lequel régnerait un souverain parfait et glorieux qui éliminerait instantanément le péché d'une poigne de fer. Citation de John MacArthur dans son commentaire sur l'Apocalypse. Ce que John Lennon a imaginé, et avec lui une génération entière, Dieu le réalisera encore de façon plus parfaite lors du règne millénaire. Oui, je crois à un règne millénaire en accomplissement des promesses faites au peuple d'Israël, aux alliances abrahamiques, davidiques et la nouvelle alliance. Ce sera la mise en place, non plus seulement mystérieusement, mais alors parfaitement du royaume de Dieu sur la terre, en plein accomplissement des enseignements de Jésus aux disciples. Frères et sœurs, qu'est-ce que ce que nous avons vu ce soir vous inspire? Est-ce que cela ne fait pas croître votre amour pour Dieu? Dieu tient ses promesses, même envers son peuple infidèle. Il a fait alliance, il tiendra sa promesse. Est-ce que tout cela ne devrait pas nous pousser à davantage partager le message de l'Évangile, non pour mettre en place le royaume sur la terre, mais pour que davantage de personnes connaissent Jésus comme Sauveur et puissent goûter à ce temps de rafraîchissement prévu pour les croyants. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire. Je crois utile de mentionner quelques ouvrages qui m'ont permis de vous faire cette présentation ce soir, et notamment deux qui me paraissent être en français les meilleurs sur ce thème. Je ne connais peut-être pas tout, donc peut-être d'autres frères auront d'autres ouvrages à conseiller, mais il y a un excellent livre qui s'appelle « Le Millennium, image ou réalité », écrit par Charles Ryrie et Homer Payne. C'est principalement sur ce livre que je me suis basé pour ma présentation. Il y a aussi plusieurs pages de l'excellent livre « Le retour de Jésus-Christ » de René Pache aux éditions Emmaüs, qui est très complet sur l'ensemble des événements des temps de la fin. Et puis, quelqu'un qui n'est peut-être pas trop connu parmi nous, mais qui est très très intéressant, un juif messianique, Fruchtenbaum, un ami de Roger Libby, c'est tout dire, et qui écrit et a un site internet avec énormément de ressources très intéressantes et qui écrit un excellent article qui s'appelle « Le royaume messianique ». Enfin, quelques ouvrages généraux dont, que vous connaissez certainement. Je mentionne évidemment l'ABC de théologie chrétienne de Ryrie de nouveau, et puis le guide de doctrine biblique de Thiessen, qui sont aussi deux excellents ouvrages sur tous les points de doctrine importants.